Merci pour ces deux très très belles présentations. On va avoir donc un petit peu de temps de discussion. Maybe I will begin with our friend coming from UK. Definitely this kind of intermediate location seems to be wonderful because it's really driven by the patient, not only by those leading the health system. One aspect that I would be afraid of is about responsibilities. Because, you know, with this kind of location, it's very nice. They can have a very easy access to it. But then afterwards, you have people that have sometimes very severe disorders with the risk, for example, of suicidal attempts and so on. So how did you manage with these kind of frightening ideas?
Okay, it's a really good question and something that obviously people were very concerned about. There were some models in other areas of the UK that we drew on. And we were expecting to have a significant issue. We're open between 4:30 p.m. and midnight during the week, and we're open to 2 a.m. at the weekend. And we were really concerned that people would come in extreme distress and that we wouldn't be able to get them a bed and that they wouldn't be able to go home because they wouldn't be able to keep themselves safe. Because we've had a range of people thinking about the processes, everyone who accesses the retreat does so on their own terms, but goes into a really kind of honest agreement about how they're going to keep themselves safe within the time at the retreat. So when they come into the retreat, there's that initial conversation where people are given the opportunity to take some responsibility. If they're too unwell and actually it's not appropriate, then we will divert them to crisis services. That doesn't happen very much at all, actually. We see up to 50 people in an evening, which is a lot. We have a small amount of staff. But the whole ethos is set around that personal responsibility. We have the ability to do Mental Health Act assessments on the premises if necessary. So if someone lacks capacity, we can bring in some professionals to be able to assess whether they need a bed. But again, that's very small in number. I think the key for us has really been in testing it. We've been very lucky. Our commissioners have enabled it. But we have processes that have actually surprised us in that people are able to keep themselves safe, sometimes only for a short period of time, but it's a co-produced process.
Merci. Peut-être, Lisa, pour reprendre sur la présentation précédente, très joli modèle heuristique qui tient vraiment l'intégration des différentes approches, plus facile à mettre sur une diapositive qu'à vivre tous les jours. Dans cela, l'endroit où vous travaillez à Necker est particulièrement riche en chacune des spécialités. Ce n'est pas tellement le cas en général dans les prises en charge en pédopsychiatrie. Donc, comment finalement cette approche très complémentaire d'approches différentes peut correspondre à une réalité sur le terrain en dehors de quelques endroits privilégiés universitaires?
La complémentarité, elle s'incarne soit au sein d'une, enfin, dans la tête d'une personne et les possibilités qu'elle a d'intervenir, mais je crois que c'est vraiment l'équipe pluridisciplinaire qui incarne ça et de manière importante. Alors, en pédopsychiatrie, par exemple, les centres d'action médico-sociale précoce sont des structures qui ont été pensées pour incarner ça, avec des pédiatres, des psychiatres, des psychologues, des orthophonistes. C'est le principe même. Alors, dans le principe, ça marche bien. Dans la réalité, peut-être un petit peu moins bien. Mais c'est en pédopsie, c'est ce qu'on a voulu faire chez les enfants à haut risque développemental, en tout cas. Ça a été conçu tel quel.
Très bien. Alors, on a le temps pour quelques questions. C'est vrai que l'intelligence artificielle, ça vous aspire le cerveau tellement on a d'informations riches et denses. Voilà, nous avons une question.
Je voulais demander, par rapport à l'expérience anglaise, en fait, quel est le taux de personnes qui sont en situation de précarité sur ce territoire? Et du coup, est-ce que vous arrivez à intégrer aussi ces personnes en situation de précarité dans les dispositifs? Est-ce que ça n'engorge pas aussi... Parce que la situation sociale en France est pas bien.
Yes, we do. We see a number of homeless people. The area that the retreat is situated is in quite a deprived area. It's not a requirement to have a fixed abode to come into the service. The only stipulation that we have is that people are not intoxicated to a level that they can't engage. But there are lots of people. There's a really great chap who is now in accommodation, but who wasn't when he came in and started, and has now got some structure. He volunteers and comes back regularly, and is in some emergency housing locally, which he's not been able to engage with before. So yes, we do. We have homeless people that access. We have people from a range of different backgrounds, and it's all integrated.
Peut-être pour continuer dans la même organisation de questions, what would be the balance between social support, financial support, homeless support, and more real psychiatric care? Would you say that there's a balance for those getting to your retreat?
I'll just check I understood the question. So do you mean, do we offer a range of supports for people who come into the retreat?
Yes.
So we are a service that doesn't offer that in-house, but because we have a lot of networks, we have advocacy that comes in, so that can help people with accessing benefits. We have very strong links with local housing providers who do drop-in sessions. So we do a lot of signposting and a lot of enabling, but we don't offer any of those services in the retreat itself. We focus very much on peer support and psychosocial intervention.
Très bien. Daniel, une question derrière.
Si oui, pour Madame Lisa Housse, comme Michel Dunia, vous avez bien montré toute l'importance des interactions précoces qui vont pouvoir moduler l'expression du génome. Et comme le disait notre président, qui dit vulnérabilité génétique ne dit pas déterminisme génétique. Malheureusement, nous avons connu des positions idéologiques qui faisaient que ces aspects ne pouvaient pas être envisagés. Vous allez dans le sens de là aussi ouverture et intégration. Les jeunes collègues vont vers cet aspect d'approche intégrative de la psychiatrie. Ma question est, pourquoi ne pas envisager que lorsqu'on parle de troubles, plutôt que de parler de troubles du neurodéveloppement, on ne parlerait pas de troubles du psychoneurodéveloppement, et que ce serait justement une vision qui soit dynamique et qui permette de prendre en compte les aspects là aussi relationnels et interactifs.
Vous avez l'air de bien connaître le monde de l'autisme, et vous savez qu'actuellement les questions de langage sont fondamentales. Il y a encore des querelles absolument épouvantables en ce qui concerne l'autisme. Il y a des mots qui ne sont pas autorisés encore. D'abord, quand on met plus d'un trait d'union, c'est suspect. Neuropsychodéveloppement, ça fait déjà deux traits d'union, c'est trop. Et on est encore pris dans ces problèmes de langage. Moi, j'ai déjà eu présenté des projets dont on m'a dit ils sont formidables, mais vous travaillez avec des psychanalystes, vous ne serez jamais financé. Ce genre de truc complètement dingue. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est comme quand j'étais jeune à la fac, j'utilise le langage de l'autre pour mieux m'infiltrer. L'Organisation communiste internationale, il m'avait appris ça, qu'en fait, il faut apprendre la langue de l'ennemi. Donc, je parle couramment le neurodéveloppement. Je parle couramment le psychanalytique. Mon problème, c'est que je suis traître chez tout le monde. Les psychanalystes, ils me disent que je ne fais pas de la vraie psychanalyse, et les neurodéveloppementalistes, ils me disent que je suis une molle de la psychanalyse. Alors, j'accepte de vivre dans les marges et dans les no man's land, mais d'essayer quand même de prendre la langue. Il y a des trucs qu'on ne peut pas encore dire. Mais moi, je serais assez... Déjà, quand je parle de neuropsychanalyse, on me dit « Ah, va des rétro, c'est quoi ce truc-là » Ben, on n'a pas trouvé de meilleur mot, mais venez au prochain congrès à Bruxelles du 18 au 20 juillet 2019. Vous verrez que c'est un des endroits les plus excitants. Et on parle de la très grosse neuroscience très dure, où les plus grands neuroscientifiques ouverts viennent. Mais vous avez raison, mais bon, peu importe le récipient pourvu qu'on ait l'ivresse.
Merci, camarade, pour la réaction tout à fait compréhensible. On peut d'ailleurs dire que la psycho est intégrée dans le neurodéveloppement. C'est une lecture différente d'exactement la même chose. Alors c'est vrai qu'il y a des positions idéologiques qui des fois rendent un antagonisme qui n'existe pas dans la réalité. La psychologie, c'est dans le cerveau, et le cerveau, c'est dans la psychologie. Et heureusement, on aura la solution quand on arrêtera de se débattre pour des mots qui n'ont en fait pas beaucoup d'importance. Le plus important là-dedans, je pense que vraiment c'est ce que vous avez montré, c'est le fait de pouvoir se parler, de s'intégrer, de s'écouter, afin d'enrichir chacun d'entre vous. On va remercier beaucoup nos deux orateurs pour votre présentation. Applaudissements.